En effet, des élections partielles auront bientôt lieu dans le comté de Bagot, dont le siège est présentement vacant. M. Maurice Duplessis, alors premier ministre de la province, hésite d'abord à lui confier la candidature, le trouvant encore trop jeune. Mais il se rend bientôt compte que Daniel Johnson est prêt.
Disons que M. Duplessis, à ce moment-là, n'avait pas eu l'occasion d'évaluer les qualités de M. Johnson. Et quand le docteur Adam est décédé et le comté a été ouvert, certaines personnes du comté de Bagot qui avaient connu M. Johnson lui ont suggéré de présenter. Ils sont allés à Québec et M. Duplessis a dit c'est trop vite, il est trop jeune, c'est pas le temps, il faudra choisir un autre candidat. Et finalement, l'organisation du comté a décidé de le présenter quand même. Et M. Duplessis a cédé. Mais quand il est arrivé à Québec et que M. Duplessis a découvert les qualités qu'on lui reconnaît même aujourd'hui, il l'a nommé en très peu de temps vice-président de la Chambre, adjoint parlementaire et plus tard ministre des Richesses hydrauliques.
Le 18 décembre 1946, Daniel Johnson devient député du comté de Bagot, ayant obtenu la plus forte majorité jamais vue dans ce comté. Il mènera par la suite 7 campagnes électorales dans ce comté, sans être battu une seule fois. Voici donc lancé dans l'arène politique. Il a trouvé sa voie et il semble destiné au plus bel avenir. En 1954, il est nommé adjoint parlementaire du premier ministre. Puis, en décembre 1955, il devient président des comités de la Chambre et vice-président de l'Assemblée législative. Le 30 avril 1958, il est nommé ministre des Ressources hydrauliques. Entre-temps, en 1950 et 1952, il représente le Québec au Congrès de la Commonwealth Parliamentary Association. En septembre 1961, alors que le parti traverse une crise, il est élu à la chefferie de l'Union nationale.
Pendant que les partisans pleuraient la défaite, se lamentaient, étaient démoralisés, découragés, jetaient l'éponge dans l'arène. M. Johnson s'amenait à Québec. Et deux jours après la défaite, il recommençait à reconstituer les cadres du parti et à apprendre à ses intimes qu'il serait probablement maintenant en route pour la candidature à la succession de M. Barrett, qui, tout le monde le savait à ce moment-là, du moins dans l'entourage, céderait son poste ou démissionnerait. Il est parti, il est parti faire le tour de la province, donner la main à tout le monde, rencontrer tous les partisans, et il a commencé son travail à la chefferie.
C'est ainsi qu'il assuma jusqu'en 1966 le rôle parfois pénible de chef de l'opposition.
Le chef de l'opposition et l'opposition sont des nécessités dans notre système et doivent jouer un rôle essentiel qui est celui de faire ressortir ce qu'il y a de moins bon peut-être dans la législation que l'on propose. C'est de faire entendre la voix de tous ceux qui aimeraient s'exprimer sur un projet de loi mais qui n'ont pas l'occasion de le faire. Dans notre système bipartisme, évidemment, le chef de l'opposition doit faire entendre les critiques non seulement de son parti, mais également de certains secteurs de l'opinion publique qui ne sont pas représentés en Chambre. Au contraire, cette période-là fut une de travail intense, de réflexion suivie, de préparation en profondeur par des études, des consultations et des voyages. Ce n'est donc pas une période désagréable, au contraire. C'est une période nécessaire et je pense que la meilleure école pour un premier ministre, c'est encore l'opposition.
Le 5 juin 1966, c'est la victoire pour Daniel Johnson et ses compagnons de l'Union nationale. Quelques jours plus tard, il est assermenté premier ministre, ministre des Affaires fédérales provinciales et ministre des Richesses naturelles.
Thank you.
Nous n'irons pas plus loin dans la carrière politique de l'honorable Daniel Johnson. Son travail en tant que Premier ministre est suffisamment connu pour que l'on n'ait pas besoin de rappeler ici ce que lui doit le Québec.
Habitude, c'est celle de me réveiller à la même heure, 7h30, même sans cadran. Et c'est la lecture des journaux. Ensuite, c'est le bureau. Et c'est la procession des hauts fonctionnaires. Ensuite, beaucoup de temps consacré à des imprévus. Il nous arrive à peu près chaque jour de l'inattendu, pour ne pas dire des pépins. Il nous arrive chaque jour des complications que nous n'avions pas entrevues. Et en temps de session, on sait qu'à 10h30, ce sont les comités jusqu'à 1h. Ensuite, de 3 à 6, c'est la Chambre. Et de 8 à 10, de nouveau, l'Assemblée législative qui nous accapare. Le lendemain, ça recommence. À travers ça, il y a les relations extérieures du parti, du gouvernement. Et c'est là le problème de la politique actuelle, c'est là le déchirement entre son devoir comme premier ministre et ses obligations comme chef de parti, comme chef du gouvernement. Tout le monde insiste pour avoir le premier ministre au banquet de telle association. Tout le monde insiste pour avoir le porte-parole officiel ou le plus haut placé du gouvernement. Il n'est pas facile de se résigner à refuser certaines invitations. Et c'est même nécessaire d'aller un peu partout dans la province afin de connaître le pouls de l'opinion publique. Si on veut administrer et gouverner comme un démocrate, il faut savoir ce que pensent les gens. Il faut savoir ce que disent les multiplicateurs. Il faut sentir le pouls de l'opinion publique. Autrement, on risque de gouverner à vide, c'est-à-dire comme une roue d'air là, qui n'est accrochée à rien. Et quand on est accroché à rien, il n'arrive qu'aux élections, eh bien, on disparaît.
Quand est arrivé le bill de la Commission des écoles catholiques de Montréal, qui a été controversé considérablement, il a été tenace en chambre pour que le bill passe comme tel, mais il a immédiatement mis une équipe au téléphone pour refaire une quantité de téléphones au Lac-Saint-Jean, dans l'Abitibi, partout dans la province, pour savoir qu'est-ce qu'on pensait de ce bill-là, quelles étaient leurs réactions, quels étaient leurs conseils, leurs opinions. Et quand il a eu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté ensuite ses députés, ce qui est bien démocratique. Il leur a fait part des opinions des gens dans la province. Il a étudié la situation avec ses députés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait machine arrière, il a retiré le bill. Alors, quand on dit que c'est un one-man car... C'était l'homme seul qui décidait en dernier, mais c'était l'homme seul qui décidait en dernier après avoir consulté des centaines de personnes, sa députation et même des adversaires politiques.
Deux ans de travail harassant au service de la province ont été fatales à Daniel Johnson. On se souvient que le 2 juillet dernier, M. Johnson était terrassé par une première crise cardiaque. On a d'abord voulu rassurer la population en minimisant le mal dont le premier ministre était victime. Mais il a fallu se rendre à l'évidence. Le mal était plus sérieux qu'on ne voulait le laisser croire. M. Johnson dut prendre une longue période de repos sur les ordres de son médecin. On a d'ailleurs parlé de cancer à cette occasion. Rumeur qui fut immédiatement démentie. Visiblement, la population s'inquiétait de la santé de son premier ministre. À son retour, le 25, M. Johnson tenait une grande conférence de presse où il avait tenu à rassurer tout le monde.
J'oublie pour le moment des rumeurs qui étaient évidemment mal fondées et qui ont pu énerver quelques membres de ma famille en dehors du pays. Des rumeurs qui, je l'espère, n'ont pas de source malicieuse, mais qui étaient quand même terriblement, disons, dommageables. C'est l'envers de la médaille, mais ça arrive même chez les hommes politiques, donc je vous comprends. Après une expérience pareille, on devient plus humain. J'ai découvert une foule de gens qui font partie de ce club des ex-cardiaques, et je pense que je serai encore plus humain et peut-être assez pour régler d'une façon plus réaliste même certains problèmes. Je voudrais vous dire tout de suite que je suis reconnaissant non seulement à la population et aux journaux, non seulement à ceux qui m'ont fait parvenir des vœux, et je les remercie publiquement, tout spécialement les gens de mon comté, mais je veux remercier aussi ceux qui m'ont permis une récupération très rapide, qui étonne les médecins, paraît-il. Et en tête de liste, il y a le vice-premier ministre et toute l'équipe du cabinet qui, pendant mon séjour, ont mené la barque. Ils n'ont pas réglé tous les problèmes, ils ne sont jamais tous réglés les problèmes. Ils ont cependant fait en sorte que j'ai pu me détendre, ce qui était prescrit par le médecin.
Mais sa confiance inaltérable dans la vie n'a pas empêché le sort de frapper cruellement. Alors qu'il allait inaugurer les grands travaux de Manic 5, orgueil de ce Québec qu'il a tant aimé, une seconde crise cardiaque le terrassait.
8h35 ce matin, Manic 5. Des rumeurs circulent. Les cérémonies d'inauguration du barrage de Manic 5 seraient suspendues par suite du décès du premier ministre du Québec, l'honorable Daniel Johnson. 8h35 toujours, Claude Roy, le ministre de CHLC, annonce sous réserve le décès de M. Johnson. Quelques minutes plus tard, Hydro-Québec, à Manic 5, confirme la nouvelle et convoque pour 9h05 une conférence de presse afin de décider du sort des cérémonies d'inauguration du barrage de Manic 5. Chose assez curieuse, M. Johnson avait pris la parole hier soir à Manic 5 et avait déclaré à l'Assemblée, avant de quitter ses invités, « Je continue de travailler en allant me coucher ». Ce furent les dernières paroles officielles du Premier ministre québécois. Ce matin, on a retrouvé le corps de M. Daniel Johnson sans vie, dans son lit, à peu près à l'aube.
De tous ceux qui furent ses collègues du gouvernement et ses collaborateurs les plus immédiats, je tiens à redire l'amitié profonde qui nous attachait à l'honorable Daniel Johnson et l'immense admiration que nous avions tous pour lui, pour ses dons extraordinaires, sa vive intelligence, son calme, sa patience, son humour et sa grande humanité. C'était vraiment une joie que de travailler avec un homme d'une telle ouverture d'esprit, si respectueux des opinions et des sentiments des autres, et qui savait si bien incarner les aspirations de toute la communauté québécoise. Pour chacun de nous, il n'était pas seulement un chef et un guide, il était un ami personnel, un ami de tous les instants. Quel était le secret d'une personnalité aussi attachante? Je pense qu'on peut tout expliquer d'un mot, en disant que Daniel Johnson aimait profondément les siens. Et les siens, c'était bien sûr, d'abord et avant tout, sa famille, ses collaborateurs, les membres de son équipe. Mais c'était aussi beaucoup plus. C'était toute la population québécoise, à laquelle il se sentait lié par les fibres les plus intimes de son être. Parce qu'il aimait les siens, il savait les comprendre et s'identifier à eux. Il en assumait les espoirs, les ambitions, les joies et les peines. Il en portait aussi les fardeaux. Et ses problèmes communs, il avait la volonté inflexible de les résoudre dans la paix, dans l'harmonie et dans l'amitié. Tel fut le sens de sa carrière et de ses constants efforts. Et je suis convaincu que ses efforts n'auront pas été vains.
L'ambassade du Canada à Paris, sitôt connue la mort du premier ministre du Québec, M. Johnson, a mis son drapeau en berne. L'ambassadeur M. Jules Léger a fait à la presse la déclaration suivante. La nouvelle de la mort du premier ministre Johnson est d'autant plus cruellement ressentie à Paris qu'elle s'est produite quelques jours à peine avant son voyage officiel en France. Ainsi disparaît un des plus grands architectes du rapprochement entre la France et le Canada, et plus particulièrement le Québec. Sa disparition laisse un vide qu'il sera difficile de combler. Tous ses amis de Paris, entre autres à l'ambassade du Canada, qui se faisait une joie de l'accueillir, ressentent ce deuil de façon cruelle. De son côté, M. Maurice Couve de Murville, premier ministre de France, a adressé le télégramme suivant à Mme Danielle Johnson. Madame, dans la douloureuse épreuve qui vous atteint si brutalement, je tiens à vous faire part de mes sentiments de profonde affliction et à vous assurer que je conserverai fidèlement le souvenir de M. Daniel Johnson. Je m'associe de tout cœur à votre grand deuil et à celui de vos enfants, et je vous prie de trouver ici l'assurance de mes sentiments très profondément attristés. Signé Maurice Couve de Murville.
La mort du premier ministre québécois, M. Daniel Johnson, provoque une grande et sincère émotion aux États-Unis. En l'absence encore de commentaires officiels de leurs dirigeants, les Américains voyaient en M. Johnson un homme politique de premier plan, dont les éminentes qualités étaient particulièrement utiles à son pays, surtout à l'époque importante actuelle. La disparition de Daniel Johnson, soulignent les experts à Washington, va laisser un vide qui sera difficile à combler. M. Johnson avait aux États-Unis la belle réputation d'un homme d'État, à la fois sensible à la question des droits des minorités et d'un ardent partisan du dialogue entre les communautés francophones et anglophones au Canada. Les observateurs américains avaient également noté avec intérêt et avec sympathie qu'à sa conférence de presse de mercredi, M. Johnson avait affirmé sa confiance inébranlable dans l'avenir du Canada. On conclut enfin à Washington que la perte de M. Daniel Johnson va être profondément et tristement ressentie par tous les nombreux amis que compte le Canada dans la nation alliée au sud du Saint-Laurent.
Daniel Johnson, vu par ses amis. Daniel Johnson, vu par lui-même. Désormais, il appartient à l'histoire. Il est encore trop près de nous pour que nous puissions le juger. Une chose est certaine toutefois. Sa mort va créer un vide dans le Québec. Au lendemain d'une conférence de presse au cours de laquelle il avait réitéré son attachement à sa province, voilà qu'il disparaît, laissant à d'autres le soin de continuer son œuvre politique. Peut-être, dira-t-on de lui plus tard, il a tracé la voie, il a bien mérité de la patrie.